quatre intervenants vont se succéder.
Avec un peu chaque personne, c'est ça hein? Je vous ferai passer un petit papier 5 minutes avant la fin. Et on va essayer de procéder de cette façon. Une fois que les intervenants seront passés, bien, Dominique donnera ses réflexions sur les différentes interventions. Dire quelques mots et après on ouvrira la session au public.
Je poserai des questions.
Pour pas se passer le dictaphone en fait.
Okay.
Ça ne rejoint pas en continu, vous n'avez rien touché.
Ok. Voilà. Il y a un choix particulier, non? Pardon? Comme le programme. Alors, le programme. Le programme. Alors, Clélie, toi.
Bonjour, alors je suis Claudine Allais, je suis doctorante à l'AM Sciences Po Bordeaux et donc je fais ma thèse sur la question des classes moyennes en Éthiopie. Donc je vais présenter mon papier Politica Alpha Legam, classe moyenne et politique à Addis Abeba. Je vais commencer par expliquer mon titre. Donc Politica Alpha Legam, ça se traduit dans mon contexte comme tout sauf la politique. Donc c'est la réponse que j'ai, la plus fréquente que j'ai eue lorsque j'essayais d'aborder des sujets politiques avec mes classes moyennes à Addis Abeba. Donc je propose ici de discuter des relations entre classe moyenne éthiopienne et instabilité du régime politique en place. La notion de classe moyenne est au cœur de nombreux travaux sur l'installation des régimes démocratiques ou qui traitent de la stabilité et de l'instabilité des régimes. Alors dans le sens commun, cette notion de classe moyenne est souvent attribuée à des corrélations positives non validées de développement économique, de stabilité politique et de démocratie. Au niveau politique, elles sont à la fois décrites comme des forces d'inertie et des capacités de mobilisation. Elles sont entre soumission et rébellion. Elles constitueraient d'une part une force inertielle qui légitimise le pouvoir en place, qui, lui, en contrepartie, garantit la sécurité de leur situation et répond à leurs attentes raisonnables. Et d'un autre côté, des classes moyennes contestataires qui seraient donc progressivement frustrées par leurs attentes vis-à-vis du pouvoir. Comme je peux renvoyer aux nombreuses analyses qui ont lieu sur les origines des printemps arabes. Cependant, une étude de la littérature permet de réfuter toute forme de causalité directe entre la présence de classes moyennes et la stabilité ou l'instabilité d'un régime, ce qui ne signifie pas pour autant absence de corrélation. Donc c'est ce que je vais évaluer aujourd'hui, les corrélations entre classes moyennes éthiopiennes et stabilité-instabilité du pouvoir. Tout d'abord, je vais préciser ma démarche, montrer rapidement ce que j'entends par classe moyenne éthiopienne. La notion de classe moyenne étant particulièrement polysémique, ambiguë, floue, et les résultats dépendant grandement de la manière dont on la définit. Et ensuite, je vais tenter d'évaluer les relations d'autonomie-dépendance de ces classes moyennes éthiopiennes vis-à-vis des intérêts du groupe au pouvoir. Donc tout d'abord, quelle classe moyenne éthiopienne ? Ces classes moyennes sont au cœur des stratégies du pouvoir en place, du parti au pouvoir, l'IPRDF, depuis les années 2000. Alors, aussi bien au niveau politique, donc elles sont censées garantir la stabilité politique du pays en étant un organe de contrôle des populations, qu'en termes économiques. Donc l'objectif économique de l'Éthiopie est de devenir un middle income country rapidement. Elles sont donc considérées comme le fondement du développement économique et de la stabilité politique du pays, mais elles restent très peu définies par le gouvernement. Elles semblent constituer un ensemble flou, parfois constitué de commerçants, parfois de fonctionnaires, d'investisseurs. Donc l'objectif de ma démarche était de tenter de cerner empiriquement cette catégorie. La question c'est qu'est-ce qui localement pourrait constituer une classe moyenne à Addis Abeba ? Donc je suis partie des pistes données par les programmes gouvernementaux justement sur les débuts de définition de cette classe moyenne et de la littérature des institutions internationales qui foisonnent de plus en plus en ce moment sur l'émergence de classe moyenne en Afrique. Donc voilà, littérature qui est de plus en plus importante avec la crise économique qui dure. Donc j'ai mené une centaine d'entretiens auprès de membres potentiels de cette classe moyenne locale à Addis Abeba. L'objectif était d'élaborer un panorama large des situations de classe moyenne locale. Donc les profils professionnels des personnes enquêtées sont variés, si bien du secteur public, du secteur privé, formel, informel, des salariés, des indépendants, des fonctionnaires aussi. Je vais rapidement décrire les grandes caractéristiques de ces classes moyennes. Alors, leur seule caractéristique a priori commune est un éloignement de la pauvreté et un accès mesuré à une forme de prospérité. Elles sont très loin, en fait, de l'image qu'on a d'une African middle class qui fréquenterait les centres commerciaux et adopte un mode de vie à l'occidental. Elles sont concentrées sur une gestion minutieuse de leur budget et afin de conserver un statut qu'ils considèrent comme correct, en tout cas s'ils se comparent au contexte éthiopien. Donc elles élaborent des stratégies assumées et diversifiées de captation des ressources et la priorité est très souvent donnée à l'éducation des enfants et beaucoup sacrifient l'amélioration de leur propre niveau de vie à l'éducation des enfants. Lorsqu'ils évoquent leur position sociale, ils se placent la plupart du temps par la négative, par défaut, donc ni riches ni pauvres. Ils ne se considèrent pas comme pauvres parce qu'ils peuvent satisfaire leurs besoins primaires, mais ils se trouvent loin de l'aisance des riches. Ils se disent souvent médium, donc en anglais, ou mekakalenia en amharique, qui signifie au milieu. La principale caractéristique de ce groupe, après mon enquête, donc en fait, c'est son hétérogénéité, aussi bien au niveau des trajectoires sociales que des comportements économiques et sociaux. Et l'étude sur leur rapport à la politique met aussi en évidence des rapports contrastés aux partis au pouvoir, aussi de la défiance à l'enthousiasme, de la frustration au sentiment d'opportunité, d'ascension économique et sociale. Cependant, l'enquête relève des sous-groupes relativement homogènes, donc des personnes aux profils similaires et aux orientations politiques semblables. Donc je vais présenter maintenant ces résultats. J'ai beaucoup insisté dans mon papier sur les difficultés des conditions d'enquête de terrain qui sont significatives de la dépendance de cette catégorie vis-à-vis des intérêts du parti au pouvoir. Donc là, je vais passer très rapidement dessus parce que je n'ai pas le temps. Mais donc mon premier séjour de recherche a été marqué par mon incapacité à faire parler ces classes moyennes de politique, donc d'où le titre Politica Alpha Legem. Et lors de mon deuxième séjour de recherche, j'ai pu parler un peu plus, mais c'était pas le même type de profil. J'ai fait des entretiens avec des jeunes diplômés. Mais j'ai dû arrêter mon étude au bout d'un mois, après des avertissements informels puis institutionnels. Donc ces deux Donc je suis passée très vite, mais ces conditions de terrain, elles sont révélatrices en fait d'un parti-État omniprésent dans les vies quotidiennes et d'un système de méfiance-terreur constant au point que sphère privée et sphère publique se superposent. Donc malgré ces difficultés, j'ai quand même quelques éléments analysables qui sont autres que le silence de ces classes moyennes sur la politique. Donc au niveau de leur rapport au parti au pouvoir, plusieurs sous-groupes se dégagent. La majorité des personnes enquêtées appartiennent au groupe qu'on pourrait appeler les résignés. Donc la quasi-totalité des personnes enquêtées ne sont pas satisfaites avec la politique gouvernementale. Seulement deux d'entre elles revendiquent clairement leur mécontentement vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de l'absence de liberté. Alors que les autres, les autres parlent plutôt de déception, de point de mécontentement. Donc voilà, la plupart disent du bout des lèvres qu'ils préféraient plus de liberté d'expression, tout en soulignant que c'est moins pire qu'avant, que c'est moins pire que sous le régime communiste. Donc l'idée, il y a deux idées qui sont très répandues, celle que de toute façon, enfin que c'est moins pire qu'avant effectivement, et aussi celle que de toute façon, même actuellement, avec un autre gouvernement, rien ne changerait. Donc la stratégie la plus fréquente est celle de l'évitement, jouer le jeu des pouvoirs en place afin de vivre sa vie, que finalement ils se disent hors du jeu politique ou suiveurs pour ne rien perdre, ils entrent dans le jeu en train de préserver leur vie quotidienne, professionnelle, familiale. Un groupe repérable, un sous-groupe assez fort, c'était constitué d'une vingtaine de jeunes qui ont entre 26 et 35 ans. Alors eux sont consultants indépendants, journalistes ou encore travaillent dans des écoles internationales. Ils ont des profils sociologiques et des trajectoires sociales semblables. Ils ont tous grandi dans des familles où l'éducation est la priorité. Ils ont bénéficié de scolarité dans des écoles privées. Donc eux, ils sont parfois critiques en ce qui concerne, par exemple, le respect des droits humains ou de la démocratie. Mais ils sont très fiers du développement économique du pays qui a été impulsé par le gouvernement. Donc, ils ont totalement intégré le discours développementaliste du gouvernement qui consiste à dire que le développement économique constitue la priorité du pays et que la démocratie suivra, que la démocratisation est un processus long qui suivra le développement. Et donc ces jeunes sont très optimistes quant à l'avenir du pays et ont un intérêt au maintien de l'ordre établi, certain. Je ne vais pas approfondir. Je vais finir sur la question de la révolte impossible. Donc ça, c'est l'enquête que j'ai pu mener seulement pendant un mois parce que après j'ai dû m'arrêter, où je demandais aux classes moyennes avec qui je faisais les entretiens ce qu'elles pensaient de ce qu'on a appelé les printemps arabes et si elles pensaient un scénario semblable en Éthiopie probable. Les réponses du groupe que je viens d'écrire, donc ce groupe de jeunes très engagés dans le développement du pays, pensent qu'il n'y a pas de révolution possible. D'abord, ils la trouvent inutile. Pourquoi faire une révolution alors qu'on est en pleine croissance économique ? Et impossible, donc sur des arguments de division du pays en termes ethniques, par exemple. Ou sur le fait que de toute façon, avec le contexte de pauvreté, les gens ne cherchent pas la liberté, mais l'argent. Après, donc la majorité des personnes enquêtées, elles pensent qu'une révolte serait probablement souhaitable, mais guère probable. D'une part, il considère que la manière dont le gouvernement contrôle les populations constitue un obstacle majeur. L'idée qu'une personne sur cinq est un indice du gouvernement est très répandue. Et certains soulignent aussi l'intelligence de la stratégie gouvernementale au moment des printemps arabes. Donc, c'est un moment où le gouvernement a fixé les prix sur les produits de base pour essayer de lutter contre l'inflation. Et c'est aussi des printemps arabes qui ont été totalement passés sous silence par la presse locale. Le premier article de journal que j'ai trouvé qui évoque les printemps arabes a été publié 4 mois après le début des événements. Ce qui revient le plus souvent, c'est les souvenirs traumatiques de la période précédente, de la période communiste, et de 2005, où des manifestations ont été sévèrement réprimées. Donc le vocabulaire de la mort, de la violence et du sang est prégnant. Et la phrase « je ne veux pas me faire tuer » revient très souvent. Donc, je voulais juste conclure. La superposition entre la vie quotidienne des classes moyennes et l'appareil de domination semble laisser peu d'autonomie vis-à-vis des intérêts du groupe au pouvoir. Les classes moyennes sont de facto intégrées à l'appareil d'État, qu'elles adhèrent au parti ou non, qu'elles approuvent le régime en place ou non. Enfin, les trajectoires économiques et sociales des personnes enquêtées sont marquées par la dépendance vis-à-vis des intérêts du groupe au pouvoir, qu'elles aient un intérêt au maintien de l'ordre établi ou non, qu'elles s'intègrent à l'appareil de domination ou qu'elles développent des stratégies d'évitement. Merci.
Je passe la parole à Virginie Michaud pour nous parler de Aux marges du réseau, pratique d'autonomisation de l'accès à l'eau potable des populations indigènes de classe moyenne, la série de Douala.
Merci. Bonjour. Alors, je suis Virginie Nantou, je suis en deuxième année de doctorat à l'Université Paris 1 et ma communication s'intitule Aux marges du réseau. Alors, Douala, en 2010, compte environ 3 millions d'habitants. Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. La croissance démographique moyenne a un taux annuel est de l'ordre de 6,3%, ce qui entraîne depuis environ deux décennies un étalement urbain important, principalement le long du principal front d'urbanisation situé à la périphérie, situé au nord de la ville. Paradoxalement, depuis 1980, la fin de la décennie 80, on note une quasi-suppression des investissements de l'État dans la construction et l'équipement des périphéries, notamment le réseau d'eau potable. Les besoins en eau de la ville, en effet, sont largement supérieurs à la demande. Et les opérateurs publics ont fait le choix de sacrifier les périphéries. Et dès la fin de la décennie 90, de vastes territoires qui autrefois étaient desservis ont été exclus du réseau public. Et les opérateurs, en fait, utilisent des systèmes de rationnement pour desservir le centre et certains quartiers péricentraux. Il se développe ainsi par conséquent, depuis près d'une décennie à la périphérie, une véritable économie de l'eau entretenue par un entrepreneuriat privé et le plus souvent informel. On relève des petits opérateurs privés, mais aussi une offre urbaine alternative sophistiquée qui est proposée aux ménages de classe aisée. Et du coup, on note une spécialisation dans la production et la distribution de l'eau à partir des forages et de mini-réseaux privés. De manière globale, la situation de l'eau au Cameroun, une société nationale des eaux a été créée en 1967, mais dans les années 80, sous l'impulsion des bailleurs de fonds internationaux, le gouvernement a reconsidéré sa position et décidé la rupture du monopole de la Société nationale des eaux du Cameroun. La privatisation a ici abouti en 2008, ce qui fait il y a 5 ans, et globalement, la gestion publique de l'eau comprend une société publique la Camerounaise, la Cameroon Water Utilities Corporation, et une société privée chargée de la distribution de l'eau, la Camerounaise des eaux. La Camwater gère est chargée de la gestion du patrimoine public de l'État, donc des infrastructures. Alors, la présente communication porte sur les stratégies des classes sociales. Ouais. Les stratégies de classe sociale face au problème de l'eau à Douala en marge du réseau public. Elle analyse les relations entre riches, pauvres et non pauvres à la périphérie de Douala et révèle les mécanismes de solidarisation de groupes économiquement différenciés. L'étude va au-delà des rapports entre à l'eau des populations pauvres qui ont été largement étudiées et elle s'intéresse particulièrement aux pratiques et espaces des populations aisées et de classe moyenne. Et bien entendu, c'est des aspects qui ont été abordés de manière parcellaire parce que l'essentiel dans mon étude, c'est l'eau. Et de plus, une classe moyenne et aisée qui se rend de plus en plus autonome d'un service public d'intérêt général. Alors, la communication s'inscrit également dans le cadre de mes recherches doctorales en cours. Des questionnaires ont été administrés auprès d'environ 150 ménages dans deux quartiers de Douala, à Lobosu et Bonamoussadi. Et plusieurs entretiens ont été menés auprès des populations, des chefs de quartier, des responsables de la communauté urbaine de Douala, mairie et opérateurs publics. Voilà. Je cherche juste une carte pour expliquer. Le terrain d'étude. Douala, de manière générale, connaît une croissance le long des principaux, des grandes artères. Et on relève une extension spatiale le long des principales voies de particulièrement sur la rive gauche du fleuve Voury. Alors, l'étude porte sur le front nord qui en fait constitue le principal front d'urbanisation de la ville depuis deux décennies. Il s'étend à partir du quartier Bonamoussadi que vous voyez là et au nord et au nord-est vers l'Ogbessou. Alors, l'urbanisation du front nord a été entamée au début de la décennie 80. Il rentre dans le programme dans le cadre d'un vaste projet de construction d'une ville nouvelle dénommée Douala Nord. Le projet prévoyait en principe le lotissement de 3200 hectares de parcelles avec des constructions, la construction des logements et les services de proximité. Il a été exécuté par des sociétés publiques, immobilières publiques, la Maïture et la SIC. La Maïture, c'est la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux et la SIC, c'est la société immobilière du Cameroun. Alors malheureusement, au milieu de la décennie 80, c'est-à-dire moins d'une décennie après le début de ces opérations d'envergure, la crise économique a contribué à l'arrêt du projet. Et la Maïtu particulièrement a réalisé environ 85% de ses activités avant 1985. Des opérations ont été réalisées, certains espaces ont été viabilisés, lotis, d'autres ont été viabilisés. Mais non lotis et vendus aux populations. Et à ces espaces se sont greffés de nouveau. Alors, je reviens sur cette carte. Alors là, c'est le point de départ de la construction de la ville nouvelle Douala Nord. Bonamoussadi, le quartier, constitue ce point de départ. Des quartiers ont été construits, Bonamoussadi, Koto, Lokong et Makefe. Comme on le voit, c'est un peu flou, mais cette ville a été conçue sur un plan en damier, c'est bien, c'est, l'aménagement est correct. Et en dehors de cette ville, il y a une ville plus privée, gérée par des notables autochtones, parce que environ le tiers de la superficie prévue au départ n'a pas été aménagée. Il rétrocède aux notables coutumiers qui contribuent au lotissement privé, à la production privée foncière à Douala. Alors depuis environ deux décennies, toute cette zone est assurée, la gestion maison foncière dans cette zone assurée par les notaires coutumiers. De manière générale, à Douala, la production foncière privée contribue à 80% de la production de la ville.
Juste pour montrer les lotissements qui ont été faits à cette époque, dans les fin 1980, qui sont aujourd'hui dans un état de dans un état vétuste, c'est les lotissements, on les appelle les cités SIC, qui sont été construites par la Société Immobilière du Cameroun. Voilà, c'est pas entretenu et les projets ont été pas globalement, mais très souvent abandonnés. Alors, la zone d'étude, comment, pourquoi j'ai choisi de travailler au nord de Douala et pourquoi j'ai choisi certains quartiers? Au départ, il fallait, j'ai défini deux catégories de critères. D'abord, le taux de couverture du réseau d'eau potable. Et à partir de cette catégorie de critères, il fallait choisir un quartier bien desservi, un quartier moyennement desservi et un quartier peu ou pas du tout desservi. Ensuite, le niveau de standing. La classification des quartiers selon le niveau de standing a été établie par l'Institut national de statistique au Cameroun. Le critère principal est cette typologie et le bâti. Trois niveaux de standing sont définis. Haut standing, moyen standing et bas standing. Ils permettent de distinguer respectivement les quartiers riches, caractérisés par la prédominance des villas modernes et des immeubles de luxe, des quartiers non pauvres, vous marquez bien qu'ils disent non pauvres, et par classe moyenne. Alors ces quartiers, on se distingue parce qu'ils ont la majorité de la population habite les complexes d'appartements. Et enfin, les quartiers pauvres construits sans plan de lotissement et qui recouvrent en majorité des maisons isolées. Bien entendu, cette typologie de l'espace urbain à partir des niveaux de standing semble discutable et n'est pas toujours pertinente pour déterminer des zones d'études spécifiques. Alors en effet, les résultats de l'étude ne rendent pas compte d'une classification des quartiers par type de standing et les statistiques globales relèvent en général de l'échelle de la municipalité et non du quartier. Alors nous avons procédé à une distribution thématique des critères de richesse qui pourraient bien entendu être discutés et qui ont été partiellement intégrés dans les questionnaires utilisés. C'est justement ce tableau que vous avez là. Alors, en fonction de ces critères, à savoir le niveau de standing, le taux de couverture du réseau, nous avons mené des recherches dans deux quartiers de la ville, Bounamoussadi et Lobbesou 1. Alors, d'abord, le quartier Bounamoussadi. À Bounamoussadi, nous avons travaillé dans deux secteurs particuliers, Donva et Santa Barbara. Vous pouvez le voir juste là. Alors, ces deux territoires de la ville ne constituent pas en eux-mêmes des quartiers, mais ce sont des blocs au sein du grand quartier Bounamoussadi. Donva et Santa Barbara sont entièrement couverts par le réseau d'eau publique. Le choix de ces espaces, en fait, s'imposait de lui-même, parce que depuis la décennie 90, ils conservent et revendiquent la réputation de riches, qui d'ailleurs est fortement acquise. Ces dénominations marquent une certaine rupture avec les autres espaces du quartier, en fait, et participent de la construction d'une certaine identité. Ce sont des espaces riches, hautement sélectifs par la spéculation financière. Le prix du mètre carré a presque quasiment quintuplé en moins de deux décennies, passant ainsi de 9 000 francs CFA à peu près 60 000 francs CFA, donc de 15 euros à 100 euros. Et l'expression la plus visible, la richesse, en est le bâti. L'architecture imposante, des grandes propriétés qui s'étendent parfois sur près de 1000 mètres carrés, la hauteur des clôtures, le calme plat des lieux qui semblent les rendre impénétrables, comme mis à part et coupé du reste du territoire.
Un autre critère, bien entendu, c'est la qualité et l'intensité du parc automobile. J'ai dit, le tableau qui a été présenté pour la distribution thématique de richesse, enfin, il a été intégré de manière partielle dans mon questionnaire qui était déjà assez intense et du coup, l'eau a été privilégiée comme point focal de mon travail. Et du coup, une proportion importante de population, d'ailleurs, dans ce quartier, habite des propriétés de 500 mètres carrés. Des prix du mètre carré de parcelle varient. En fait, du coup, une parcelle peut être acquise selon les époques et selon les vendeurs à 4 500 000 francs ou à 10 500 000 francs, ce qui est enfin 6 900 euros à 15 000 euros à peu près. Mais il y a aussi des espaces de 700 mètres carrés qui ont été acquis à peu près 55 000 euros. Les prix varient fortement. Ensuite, l'Orbessou 1, c'est ce quartier. Il a été choisi à Puyi parce qu'il semble appartenir à une classe intermédiaire entre les espaces riches de Denver, Santa Barbara et des quartiers où l'expression visible de la richesse est patente. Mais la réalité est plus complexe et enfin, qu'elle n'y paraît au premier abord. L'Orbessou est davantage un mix recouvrant à la fois des espaces pauvres et non pauvres, habités en majorité par des autochtones et des espaces riches, habités par des populations halogènes. Comme on peut le voir sur cette photographie, on a une maison en carabote et plus bas, tout un groupe d'habitations. En fait, il y a des espaces de riches qui se construisent progressivement. Alors, quel est le profil de ces populations dans ces quartiers? Je voudrais d'abord souligner que au Cameroun, en général, les enquêtes sur les populations se basent sur le profil du chef du ménage, en fait. Et alors, c'est le profil des chefs du ménage que je vais vous présenter ici. La majorité des chefs de ménage sont employés dans le commerce. Ce n'est pas du commerce de la rue ou du petit commerce, c'est le gros business du commerce. Le terme approprié qui sied mieux à ce boulot, c'est on les appelle les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires. Ils investissent dans le gros commerce, principalement l'importation et l'exploitation des marchandises. De manière générale, dans les deux quartiers, à l'Orbessou et Santa Barbara, c'est d'abord des commerçants qui ont constitué une part importante des enquêtés. Sur les 100 enquêtés que nous avons eus à l'Orbessou, 29% déjà sont employés dans le commerce. Ensuite, ils sont installés à leur propre compte, c'est-à-dire ils ont leurs propres investissements. Les niveaux de revenus sont très variés. Bon, les chiffres sont bien entendu... Quand vous posez des questions sur le niveau de revenus de population, ils sont assez réticents. Les chiffres varient entre 100 000 francs et 1 million de francs CFA de revenus mensuels. Ensuite, on relève des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui sont installés à leur propre compte ou bien des directeurs de société. Et les tranches de rémunération, c'est entre 250 000 francs CFA et 1 million de francs CFA. 250 000 francs CFA, je ne sais pas, peut-être 400 euros. Et voilà. On a bien entendu des techniciens et des fonctionnaires, des travailleurs indépendants, avocats, experts, comptables, médecins. Et particulièrement à Bounamou Sadi, les personnes qui sont techniciens, c'est-à-dire qui sont maçons, électriciens, donc du coup qui exercent vraiment des petits métiers, ils ne sont pas propriétaires, ils sont des locataires, ils ne sont pas nombreux. Ils sont à peu près 5 sur 40 personnes qui ont été interrogées avec qui nous avons travaillé dans ce quartier. Et en dehors du commerce et d'autres métiers, et des métiers d'entrepreneurs et de travailleurs indépendants, plusieurs chefs de ménage ont un travail secondaire, ont investi dans une source de revenus secondaire. Et de plus en plus, l'immobilier semble un investissement fiable parce que c'est un investissement à long terme. Du coup, ils construisent des maisons qu'ils mettent en location, qui leur apportent un revenu substantiel à la fin de chaque mois. Et à Bounamou Sadi, 14% des personnes enquêtées ont une seconde source de revenus dans l'immobilier. Alors, je termine. finalement, on a affaire à des territoires qui deviennent de plus en plus autonomes. À Bonamoussadi, les populations combinent à la fois. Vous avez vu sur la carte, le réseau est assez dense, ils sont desservis. Mais à cause de la qualité de l'eau et des coupures intempestives, les populations mettent de plus en plus en place des forages privés. Et dans certains ménages ont construit des puits. Ce qui montre à peu près certaines disparités dans des territoires qui a priori semblent homogènes. Alors, à Lobessou particulièrement, ce cas est intéressant. C'est dans ce quartier qu'on voit se développe un entrepreneuriat privé informel et des investissements des ménages dans les réseaux, dans les forages et les mini-réseaux privés. Juste une dernière phrase. Juste 2 minutes, je termine. Juste 2 minutes. Alors, juste pour montrer la diversité des sources d'approvisionnement sur 100 ménages enquêtés à Lobessou, nous avons 5 ménages dans les forages, mais sur la carte que vous avez vue de Lobessou, nous avons recensé dans le quartier environ 130 forages déjà. Alors, le coût du forage varie entre... il y a un coût standard pour des gros opérateurs, 6 millions de francs CFA qui équivalent à peu près, je ne sais pas combien, d'euros. Et 56% des ménages, en fait, sont connectés à un mini-réseau. Mais c'est des investissements très lourds parce que la connexion à un mini-réseau, c'est des... il faut verser une caution qui peut atteindre... 400 euros et voilà, en plus il faut payer des factures mensuelles. Du coup, au final, je me pose une question en fin de compte pour savoir est-ce que l'eau finalement ne semble pas être un critère de définition des catégories sociales. Merci.
Merci Virginie, je passe la parole à Suzanne Guimard. Pour une communication sur mutation sociale en contexte de post-conflit, piste de recherche sur la restructuration des classes sociales en Angola dans l'après-guerre. Pensée de classe moyenne à Rwanda.
Bonjour, je voulais d'abord remercier les organisateurs et les organisatrices de cette rencontre et de les féliciter pour cette initiative et de remercier mes collègues des panels et les discutants qui ont accepté de participer ici aujourd'hui. Juste pour situer mes recherches, elles portent globalement sur la fabrique sociale et politique de la paix en Angola. Et dans ce cadre, je m'intéresse surtout à la structuration des classes sociales et surtout aux rapports sociaux qui sont constitutifs des distinctions sociales. Et j'essaie tout précisément d'analyser les transformations ou des possibles transformations dans l'après-guerre. L'Angola donc a subi une guerre de presque 3 décennies qui a pris fin finalement par les armes avec une victoire militaire d'un parti au pouvoir, les MPLA, qui est au pouvoir depuis l'indépendance du pays, et la mort du leader de l'opposition, l'UNITA. L'arrivée de la paix a introduit des nouvelles logiques sociales dans les contextes angolais. La normalité de la guerre, la banalité de la guerre va céder la place aux politiques de reconstruction nationale, à la possibilité de se déplacer librement dans les territoires, au retour d'exilés, à une augmentation de l'offre d'emploi formel. Et dans les premières années de paix, on voit un boom économique avec une croissance économique extraordinaire d'en moyenne 17% entre 2002 et 2008. Donc tous ces éléments peuvent favoriser une reconfiguration du tissu social. Je m'intéresse donc ici, je pose la question de savoir dans quelle mesure les opportunités qui émergent avec l'arrivée de la paix peuvent favoriser un éventuel reclassement social d'une catégorie, d'un groupe d'individus appartenant à ce qu'on pourrait appeler une classe moyenne. Donc, je vais essayer de répondre à cette question. D'abord, en vous présentant une rapide, très brève analyse des rapports sociaux et surtout des rapports qui structurent les distinctions sociales dans les pays. Et puis, une analyse de parcours biographique des familles qui peuvent être considérées comme appartenant à cette classe moyenne. Il convient pourtant d'abord de préciser ce que j'entends par classe. donc comme Nelson Pestana, qui est un chercheur angolais, qui a fait ses études en France d'ailleurs, j'utilise l'expression classe pour identifier un groupe d'individus qui vivent dans certaines conditions qui les séparent des autres sous les plans objectifs et qui créent ou non une communauté d'intérêts sous les plans subjectifs. Donc je tiens compte de l'objectivité de la division sociale du travail, mais surtout j'accorde une importance particulière au fait que cette objectivité s'inscrit dans une dynamique de mutation et de transformation continue qui est traversée par les représentations symboliques que les membres du groupe partagent et parmi lesquelles ils se reconnaissent les uns aux autres. Donc, la notion des classes est ici employée plutôt pour identifier une condition de vie commune et n'est pas définie en termes de critères statistiques ou macroéconomiques. Il désigne donc surtout une catégorie sociale. Alors, comment penser donc ces classes sociales à Luanda, la capitale de l'Angola, qui concentre aujourd'hui 30% de la population globale du pays? Je ne veux pas rentrer dans les détails pour toutes les questions méthodologiques et difficultés de terrain, mais on pourrait en discuter après les communications si ça vous intéresse. Donc une éventuelle restructuration du tissu social dans l'après-guerre ne saurait pas être déconnectée du poids de l'histoire d'un Angola indépendant qui s'est construit par et dans la guerre, un Angola postcolonial qui s'est construit autour des pratiques de domination et de marginalisation sociale qui vont évoluer avec le temps, mais dont l'économie politique, les caractéristiques endogènes à l'économie politique qui est encore aujourd'hui, ont été forgés notamment à la fin des années 80, début des années 90, avec l'ouverture au multipartisme. Et c'est cette économie politique qui va continuer à structurer les rapports sociaux dans la période post-conflit. Il n'est pas inutile donc de rappeler que l'État angolais a été progressivement centralisé, les pouvoirs dans l'État ont été progressivement centralisés sous la figure du président, instaurant une dynamique de dépendance sociale, dépendance d'une économie politique qui est centrée sur un système de domination basé autour de la patrimonialisation de l'État. La prédation, elle alimente ainsi à différents degrés des réseaux clientélistes différents, des distributions du pouvoir. Il dépasse largement les cadres des privatisations et des criminalisations de l'État par les classes dirigeantes. L'entrée en scène des nouveaux acteurs dans l'après-guerre va inaugurer une nouvelle phase, une phase d'accommodation de ces nouveaux acteurs dans ces systèmes. Il va engager ainsi des pseudo-adaptations dans la dynamique des contrôles sociaux, dont par exemple l'élargissement de ces réseaux clientélistes. Qui va bénéficier surtout une parcelle de la population qu'on a convenu appeler les nouveaux riches, qui ont fait fortune après la fin de la guerre, notamment par l'appropriation d'une parcelle du marché économique. Donc les réseaux d'influence vont continuer à structurer en grande partie l'accès aux emplois et aux marchés lucratifs et plus largement aux ressources supplémentaires de tout type comme des commissions, des subventions, des PDM, etc. Dans ce sens, les autres classes luandaises pourraient être pensées comme une catégorie sociale composante d'une élite politique et économique assez restreinte qui s'y bénéficie largement de sa position et de sa relation avec les pouvoirs. Et qui assure, c'est ça qui assure en premier lieu leur statut et le maintien de leur statut. Dans l'autre extrême, on pourrait identifier une grande masse de pauvres qui vivent dans des conditions insalubres et qui n'arrivent pas à faire face aux dépenses de base. C'est une catégorie qui est constituée par des fonctionnaires du public et du privé dans les plus bas échelons de l'administration de l'État, dont les salaires sont largement complétés par l'informel, mais surtout une catégorie qui est composée par un grand nombre d'individus qui vit en dessous du seuil de la pauvreté, qui vit de la charité et de la microcriminalité, et dont l'identité sociale s'est construite dans la rue, dans les bidonvilles de Luanda. Donc les extrêmes de la pyramide sociale pourraient être ainsi définis largement en termes des relations de pouvoir et des relations avec les pouvoirs. et les échelons intermédiaires du fait de ce système de répartition des richesses très inégalitaires sont plus difficiles à cerner que les extrêmes et ce que nous appelons les classes moyennes au pluriel se présente plus comme un ensemble aux limites assez floues qui évolue avec les contextes et l'expansion économique du pays plus que comme une catégorie stable aux contours bien délimités. Les classes moyennes de Luanda sont très hétérogènes, hétérogénéité qui est visible dans la composition du foyer, le nombre de personnes à charge, les niveaux de scolarisation, les niveaux de revenus, surtout les activités informelles, les professions exercées, les frais engagés pour la maintenance de la maison, logement, remboursement des crédits, employés, transport, etc. Mais c'est une classe qui a un point commun, qui est le profil biographique des familles. Je vais surtout centrer mon analyse aujourd'hui, par souci de synthèse, sur la classe moyenne intermédiaire pour deux raisons. C'est qu'on pourrait appeler la classe moyenne haute, elle est plus stabilisée dans le sens où elle est moins susceptible aux fluidités de la période post-conflit. Et ce qui contraint les ascensions sociales, et notamment l'énorme fossé qui les sépare des riches, même des plus pauvres des riches, et aussi la nature de leur connexion au pouvoir, mais surtout les hauts coûts de la vie dans la capitale, qui a été considérée à plusieurs reprises comme la capitale la plus chère au monde, mais qui a été reclassée en deuxième place l'année dernière derrière Tokyo. Et la lower middle class, que j'écarte aujourd'hui aussi de mon analyse, elle est plus susceptible aux variations économiques, donc elle est plus susceptible de retomber dans la pauvreté. Les possibilités de changement des statuts d'individus composant cette classe moyenne basse sont directement proportionnelles à l'acquisition ou non des capital symboliques et réels dans le moyen terme. Mais surtout, ceci est largement conditionné par les politiques publiques d'éducation, d'accès au emploi, d'accès au crédit. Et plus que la mise en œuvre de ces politiques, leur accès réel à ces politiques. Donc entre ces deux catégories se trouve la classe moyenne intermédiaire, dont je vais vous en parler un petit peu, qui est composée surtout par des individus qui ont des parcours biographiques familiales et similaires. Les familles pouvant être identifiées comme appartenant à cette classe sociale sont elles-mêmes issues des familles des classes moyennes et vont après évoluer dans ces contextes. Donc elles ne sont pas sorties de nulle part, elles ont des connexions avec les pouvoirs et elles sont instruites. Donc d'où viennent-ils et comment ils évoluent dans la société? Donc, les familles de la classe moyenne intermédiaire proviennent souvent des familles d'assimilés, métis ou indigènes, qui ont accès à une scolarisation de base formelle et souvent en langue portugaise. Les enfants, aujourd'hui, les adultes entre 30 et 50, 60 ans, ils ont tout accès à cette éducation formelle, ce qui leur a permis aussi d'avoir accès à une scolarisation en étranger, qui est un composante important de leur identité sociale. Ils ont donc, dans la grande majorité, parti à faire les études à l'étranger et l'opportunité d'être scolarisé en étranger, elle était pour certains directement liée justement aux moyens financiers ou logistiques de leur famille, mais pour d'autres, une conséquence de leur engagement politique parce que les deux appareils politico-militaires finançaient des bourses d'études chez les alliés pour les jeunes militantes. Il y a encore d'autres qui n'avaient aucun engagement politique, mais qui ont fait les études secondaires et universitaires dans les pays voisins, africains voisins, où ils se sont installés pour fuir la guerre pendant les deux dernières décennies de guerre. Nous pouvons donc identifier deux profils types par rapport au parcours biographique des familles de cette catégorie sociale. Donc des familles qui sont installées depuis longtemps dans la capitale et une nouvelle génération de familles qui s'est installée à Luanda, surtout après la fin de la guerre. Dans les premiers groupes, on rencontre des anciennes familles traditionnelles de Luanda ou des familles qui ont déménagé à Luanda juste après l'indépendance et qui ont fait leur vie où les enfants ont grandi dans ce milieu urbain. Ils ont un bon réseau d'influence et ils en ont eu à un moment donné. Et c'est ça qui les permet d'accéder à la propriété des biens et à des autres dans les privés. Dans ce premier groupe, on rencontre aussi une élite intellectuelle qui s'est autodéfinie comme génération utopie et qui a fait partie de la lutte de libération, mais qui aujourd'hui est moins proche du pouvoir, dont certains sont encore filiés au parti et d'autres se sont lancés dans des nouveaux partis d'opposition. Dans le deuxième groupe, on identifie une première génération d'installés à Luanda, souvent grandis dans les provinces à l'époque coloniale et se sont exilés, retournés en Angola après la fin de la guerre, quand ils se sont installés donc à Luanda. Ce qui incite le retour au pays, c'est d'abord l'envie de participer à la construction d'une nouvelle Angola et en deuxième place aussi les opportunités offertes par le développement économique qui leur offre des opportunités de travail bien plus intéressantes à Luanda qu'ailleurs. Ces individus qui appartiennent à ce deuxième groupe, ils sont arrivés à faire partie de la classe moyenne, plus par leurs propres efforts que par l'ancrage du réseau familial, notamment grâce à la possession d'un capital intellectuel important. Donc ils sont des ingénieurs, des consultants, des professeurs universitaires, du public, du privé, des experts des ONG, des organisations intergouvernementales. Les revenus des familles qui appartiennent à cette catégorie sociale sont très éclatés, mais plutôt stables, et ils vont de 5 000 à 15 000 dollars par mois. Donc c'est un écart assez grand et aussi un revenu assez élevé qui doit être pris en compte avec une conjugaison d'autres facteurs pour que cet éclat puisse être rendu moins visible. On pourrait en parler en détail dans la discussion. Ce qui est important de dire, c'est que les hauts coûts de la vie de Luanda, surtout contrastés par la distance de diversité d'offres de produits de tout type, et en plus les faibles conditions sanitaires de la ville, sont des facteurs de frustration pour les familles que j'ai interviewées, dont l'imaginaire social, l'imaginaire de l'identité sociale est largement façonné par les rapports à l'étranger. Donc, les rapports qu'ils entretiennent à l'étranger, qu'ils aient ou pas vécu en exil, est assez important et façonne la façon dont ils se perçoivent dans la société, ayant des conséquences importantes sur les modèles de réussite, sur les possibilités de mobilité sociale. Parce que cette catégorie sociale a du mal à s'identifier en tant que catégorie sociale. Ils savent bien qu'ils ne sont ni riches ni pauvres, mais ils se situent dans ces flous sans pouvoir comprendre qu'ils font partie de ce qu'on pourrait appeler une classe moyenne. Le seul, parce que dans leur imaginaire, c'est qu'ils font partie d'une classe moyenne, devaient avoir accès surtout aux services publics de base, ce dont ils n'ont pas accès. Donc c'est la confrontation de leur propre identité à leur imaginaire de ce qu'ils considèrent comme étant une classe moyenne ailleurs qu'en Angola qui ne leur permet pas de se penser ou de se sentir comme appartenant à cette catégorie sociale. Pour conclure, on pourrait donc dire que bien que l'arrivée de la paix puisse avoir introduit des importants changements économiques dans les contextes angolais, l'exercice du pouvoir dans la période post-guerre inscrit les rapports de domination et de marginalisation sociale dans un lien de continuité avec les passés contemporains. Donc l'appartenance au réseau de France continue à structurer l'accès aux opportunités socio-économiques qui vont d'une place à l'école publique à l'accès à une portion de marché économique et qui est la classe moyenne intermédiaire parce qu'elle dispose d'un capital social et intellectuel suffisamment important, arrive à assurer son maintien, le maintien du statut de leur famille. On ne pourrait pas donc parler d'une reconfiguration, d'un reclassement social, mais plutôt d'une manutention d'un statut social, mais qui est favorisé et qui améliore dû justement à cette possibilité, aux possibilités qui s'ouvrent avec l'arrivée de la paix. Donc, par exemple, on pourrait dire que c'est parce qu'ils disposent de qu'ils parlent une langue étrangère, qu'ils arrivent à avoir des places importantes ou des autres places dans des ONG ou dans des organisations gouvernementales ou même dans des entreprises privées étrangères qui se sont largement installées en Angola, surtout à Luanda dans l'après-guerre. Ils arrivent à accéder à un certain nombre de bénéfices, comme par exemple la propriété immobilière, un permis de construire, un crédit à la banque, parce qu'ils ont aussi des connexions avec les pouvoirs. Donc la paix, effectivement, elle apporte une nouvelle possibilité pour cette catégorie sociale, plutôt dans une logique de méritocratie et de moins en moins de cooptation, de clientélisme et d'affiliation politique, même si on ne peut pas encore parler du reclassement de cette catégorie sociale qui se maintient dans la même catégorie que leurs parents. Merci.
Je passe la parole à Kevin Marie qui va nous parler du village, du voyage inachevé, les migrations pour études des élites maliennes en Amérique du Nord, entre logique de distinction et stratégie de reproduction sociale et contrat.
Merci. Alors, cette présentation abordera le cheminement et les principaux questionnements d'une recherche que j'ai menée depuis 2008, à la fois au Mali et en Amérique du Nord, dans le cadre d'un travail de thèse de géographie sociale. Et cette recherche s'intéresse aux jeunes maliens qui font le choix d'aller effectuer leurs études supérieures aux États-Unis et ou au Canada. Le travail de terrain qui constitue la thèse s'articule autour de trois espaces, donc Bamako, Washington DC et la ville de Moncton au Canada, avec un séjour plus long à Bamako. Alors, le dispositif d'enquête est constitué au total d'une centaine d'entretiens semi-directifs réalisés sur ces différents terrains. Et à Bamako, ce dispositif a été complété par l'administration d'environ 600 questionnaires dans 6 lycées UP de Bamako. Donc, ces différents séjours ont permis de rencontrer les acteurs de ces migrations et études, de recueillir leurs discours, d'observer leurs pratiques et d'appréhender leur trajectoire familiale. Dès les premiers entretiens réalisés à Bamako, une réalité s'est imposée à moi. La jeune génération actuelle qui part étudier en Amérique le fait dans sa grande majorité grâce aux ressources financières de leur famille. Au regard notamment des frais de scolarité pratiqués par les universités nord-américaines, il ne fut pas étonnant de trouver parmi les parents de ces jeunes des « big men » pour reprendre l'expression de Jean-François Médard. Donc, qui sont les membres de l'élite politico-économique du pays. Alors, les parents sont anciens ministres, ministres, hauts fonctionnaires, généraux de l'armée, hommes d'affaires, grands commerçants, etc. Avec leurs enfants, ils forment les familles les plus privilégiées du Mali. Ce sont elles que nous regroupons ici sous l'appellation d'élite. La démonstration, tout de suite, s'intéressera d'abord au mode de vie et au choix d'études de ces jeunes, et s'intéressera après dans une troisième partie sur les trajectoires familiales avec le récit de vie d'une famille bamakoise, membre de l'élite. Alors d'abord, la migration au Mali, un petit rappel, n'est pas une caractéristique des élites. Hein. Au contraire, la plupart des catégories sociales y ont accès. On associe d'ailleurs souvent au Mali une certaine tradition, entre guillemets, de la migration, tant le phénomène est à la fois ancien et important. On estime, selon les chiffres disponibles, les estimations qu'il y aurait entre 10 et 20% de la population qui vit à l'étranger. La migration malienne est aujourd'hui mondialisée et l'on trouve des Maliens expatriés sur tous les continents. Donc, les élites maliennes n'ont donc pas l'exclusivité de l'accès à l'espace international. Ce qui les caractérise plutôt serait leur capacité à mobiliser de multiples espaces à la fois, et ce de façon régulière tout au long de leur vie. Alors, les questionnaires que j'ai administrés dans les 6 lycées UP montrent, sur donc, ces 600 élèves environ, que 80% ont déclaré être déjà allés au moins une fois à l'étranger avant leur baccalauréat. Et dans chacun des 6 établissements, au moins 75% des élèves ont indiqué être partis sans aucune exception. Donc si les questionnaires montrent qu'une grande majorité de ces jeunes maliens sont déjà partis à l'étranger, les entretiens réalisés sur les 3 terrains d'enquête font apparaître que ces mobilités internationales sont fréquentes et participent d'un véritable mode de vie tourné vers l'international. À titre d'exemple, les mobilités d'Aïda Sangaré, dont le père est homme d'affaires, elle est élève du lycée français de Bamako et elle vient de passer son baccalauréat. et souhaite aller étudier au Canada. Alors elle dit, elle raconte, je suis née en France, quand j'avais 2 mois je suis revenue à Bamako, mais à un moment j'ai dû partir au Sénégal pendant 6 mois car j'étais malade. Ensuite je suis revenue ici, j'ai été scolarisée dans le système français tout le temps, j'ai la nationalité française mais pas malienne. Mais bon, je vais la demander car quand je reviens ici, j'ai souvent des problèmes car il me faut un visa à chaque fois, c'est fatigant. Sinon, j'ai effectué de nombreux séjours de voyage en France, en vacances, pratiquement tous les ans. Une fois aux États-Unis, à Washington, puis la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal, parce qu'on avait de la famille là-bas. J'ai 2 frères, il y en a un qui était à Fargo dans le Dakota du Nord et il est revenu ici. L'autre vient de graduer d'HEC Montréal et il travaille actuellement à Paris. Donc les pratiques de l'espace qu'on entrevoit ici incluent de fortes mobilités internationales. Les allers-retours à l'étranger sont fréquents et participeraient d'un style de vie qui rend l'espace mondial relativement familier. Alors ça n'a rien d'original ou de nouveau. Les différentes études qui ont été faites sur les populations privilégiées en Afrique, mais comme ailleurs dans le monde, confirment qu'il s'agit ici d'une tendance lourde chez les élites que celle de parcourir le monde. À titre d'exemple, les travaux de Céline Lesourd sur les riches commerçantes de Nouakchott, de France Bourgoin sur les élites africaines vivant à Johannesburg. Jean-François Bayard indique également que les voyages sont l'un des avantages liés aux positions de pouvoir en Afrique. Ainsi, la familiarité avec l'étranger et l'habitude des voyages constituent l'un des éléments qui permet aux élites de se distinguer du reste de leurs compatriotes. Ce que la sociologue Anne-Catherine Wagner définit par la notion d'habitus cosmopolite. Et cet habitus qui génère en retour une forme de capital symbolique qui permet d'opposer les mobiles aux assignés à résidence. Tant la mobilité s'est imposée comme l'une des normes centrales du nouvel esprit du capitalisme, comme le rappellent Luc Boltanski et Eve Chapello. Alors je vais m'intéresser maintenant à leurs études. Au regard du style de vie international, le choix de ces familles pour les études supérieures à l'étranger apparaît assez naturel. Dans une perspective de donc, géographie sociale qui a pour objet l'étude des rapports sociaux à travers leur dimension spatiale, je propose une analyse de ces migrations pour étudiantes en termes de stratégie familiale de reproduction sociale. Alors, dans le contexte malien, le choix pour les études supérieures à l'étranger est d'autant plus facilité par la fragilité du système d'enseignement supérieur malien, confronté à une crise endémique dont j'en vois aux travaux notamment de Issiaka Bagayogo ou Drissa Diakité sur ce point. L'université du Mali qui n'a ouvert ses portes qu'en 1996. Donc tout ça participe de dévaloriser l'enseignement local et de le rendre logiquement peu attractif pour ces familles au fort capital économique. Dans les questionnaires également, on montrait que seuls 6% des élèves de terminale des lycées privés interrogés souhaitent rester faire leurs études supérieures au Mali. Aussi, pour la grande majorité des personnes que nous avons interviewées, la poursuite d'études supérieures au Mali n'a même pas été envisagée. Elle était au contraire l'un des facteurs explicatifs d'une émigration pour études. Il faut ajouter à ça une certaine tradition, entre guillemets, de la formation des élites africaines dans les universités occidentales, donc au Mali, bien sûr en France, mais aussi en Russie ou à Cuba pendant la période socialiste, les États-Unis et le Canada, et plus récemment la Chine ou encore les pays du Maghreb. La France reste aujourd'hui en bonne position, et les universités occidentales semblent rester les plus valorisées et les plus valorisantes socialement. Mais en la matière, la France se trouve concurrencée par les États-Unis et le Canada, deux pays qui rencontrent un succès croissant auprès de ces familles d'élite. Alors là aussi, dans les questionnaires où je leur demandais où est-ce qu'ils souhaitaient aller faire leurs études supérieures, une courte majorité a répondu vouloir aller en Amérique du Nord à 41%, juste devant l'Europe à 38%. Les enquêtes qualitatives après ont permis de collecter quelques éléments explicatifs de ce relatif déclassement de l'Europe et de la France en particulier parmi cette jeunesse dorée. Donc il ressort que l'image de la France s'est dégradée au Mali. Les personnes que j'ai rencontrées ont souvent opposé une France jugée discriminante envers les populations noires et maliennes en particulier, parfois assimilée à la figure du clandestin, à une Amérique considérée comme plus ouverte à l'immigration et aux minorités. Un autre élément que les interviewés ont avancé était celui de la qualité de l'enseignement supérieur américain, considéré comme, je les cite, le meilleur du monde et qui domine le système français. Alors il est vrai que les États-Unis se trouvent en position de leader dans ce qu'on appelle le marché de l'enseignement supérieur. On comprend alors mieux ce choix de l'Amérique pour ses familles au fort capital économique, Cette destination leur permettrait, a priori, de moins se sentir dévalorisés socialement qu'en Europe, tout en profitant du meilleur système éducatif au monde. Au total, la poursuite d'études supérieures au Mali pour ces familles apparaît comme peu envisageable. L'investissement dans le label étranger pour les études supérieures apparaît au contraire comme la suite logique d'un mode de vie tourné dès l'enfance vers l'international. Cette migration, qui va permettre l'acquisition d'un capital culturel dans les prestigieuses universités occidentales, constituera une sorte de point d'orgue, d'une stratégie spatiale mise en place par les parents de ces jeunes. Aussi, on peut se demander si la destination Amérique du Nord, à la fois lointaine et coûteuse, ne constitue pas dans cette optique une sorte d'espace privilégié de la distinction sociale. Alors je renvoie à ce que tu disais, Virginie, sur le quartier Denver à Douala. D'accord. Cette stratégie permet à la fois donc de confirmer ou d'affirmer son statut social d'élite et de viser à la reproduction sociale. Alors je me base ici naturellement sur les travaux de Pierre Bourdieu. Mais cette stratégie familiale se révèle pourtant fragile et relativement incertaine dans le contexte malien. Alors ce que j'ai remarqué, le constat que j'ai pu faire, c'était que ces jeunes ne rentrent pas forcément au Mali après leurs études et que ceux qui sont rentrés sont majoritairement cadres dans le secteur privé, peu de fonctionnaires et pratiquement aucun n'a tenté une carrière politique. Alors pour éclairer ce constat, je vais me baser sur le récit de vie d'une famille bamakoise membre de cette élite. Alors, Moussa Bala Askofaré est le père de cette famille. Il est issu d'une famille maraboutique de Tombouctou. Son père est un commerçant émigré en République démocratique du Congo. C'est dans ce pays que naît Moussa Bala. Il y passe son enfance et sa scolarité primaire et secondaire. Au début des années 60, il passe son doctorat en France en physique-chimie. Il rentre au Mali et devient enseignant quelques années. C'est à cette période qu'il intègre le parti unique de l'USRDA. Juste après le coup d'État de 68, il est nommé par le nouveau régime directeur général de l'enseignement à deux reprises, avec une coupure au milieu. Il continue ensuite sa carrière en tant que fonctionnaire international à l'UNESCO, où il est nommé à Paris puis à Dakar. Après la chute du régime militaire en 91, il se présente aux élections présidentielles de 92, où il obtient un peu plus de 7% des voix. Il est l'un des deux candidats de son parti, c'est l'USRDA. Il obtient cependant une compensation puisqu'il est nommé ministre de l'enseignement du premier gouvernement de l'ère démocratique, entre guillemets, du Mali. Moussa Bala a 5 enfants, ils sont soit nés à Paris, soit à Bamako. Ils grandissent d'ailleurs entre ces deux pays et le Sénégal, au gré des affectations de leur père. Lorsqu'ils habitent à Paris, ils font de fréquents séjours à Bruxelles chez leur tante, qui est alors la femme de l'ambassadeur du Mali en Belgique. Lui et sa femme sont fortement investis dans l'éducation de leurs enfants, qu'ils scolarisent tous au lycée français lorsqu'ils habitent à Bamako. De l'aveu de certains de leurs cousins, les parents Askofaré sont très stricts vis-à-vis de la réussite de leurs enfants à l'école, qui de fait réussissent tous bien à l'école. À l'issue de leurs études secondaires, tous les enfants partent étudier à l'étranger, certains partent en Europe, d'autres aux États-Unis. À l'exception d'une des sœurs, ils finissent par tous se retrouver aux États-Unis, où plusieurs d'entre eux complètent leur cursus. C'est paradoxalement durant cette même période que leur père est nommé ministre de l'enseignement au Mali. Le gouvernement auquel il appartient sera d'ailleurs dissous à cause d'une crise scolaire au cours de laquelle les étudiants descendent dans les rues de Bamako et se livrent à des actes de violence. Durant ces événements, la maison des parents Askofaré sera incendiée. Les étudiants réclament au gouvernement des bourses, une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Aux États-Unis, les enfants Askofaré finissent leurs études et deviennent cadres et obtiennent de bonnes positions professionnelles sur place. Au final, sur les 5 enfants, 3 restent définitivement en Amérique et l'une des sœurs est à Dakar, mais il y a un des enfants qui décide de rentrer au Mali en 2004. Peu de temps après être rentré, il se marie avec la fille d'un riche médecin bamakois. Grâce à l'un des amis de son père, qui est un riche industriel malien, il trouve un poste de cadre dans une entreprise et après quelques années, il est nommé à la tête de l'agence d'État pour la promotion des investissements. Il est parrainé par son père et rentre à l'USRDA. Son association locale se dessine alors. Pourtant, c'est à ce moment que vont se compliquer, les choses vont se compliquer pour lui. Le parrainage ne plaît pas beaucoup à certains membres du parti. Sa façon de parler, notamment avec l'accent français de France, lui vaut les railleries de ses adversaires, qu'il jalouse également et voit en lui un fils à papa à qui on a tout donné. Les fruits de son éducation bourgeoise ne lui sont pas d'un grand secours et font apparaître une distance sociale qu'il rend au contraire peu à l'aise face à ses compatriotes moins privilégiés que lui. Voilà, je vais passer. Juste après le coup d'État de 2012, une affaire de corruption l'éclabousse et il décide de fuir le pays et de disparaître dans la nature. Je reprends le titre d'un article d'un journal local. Depuis cet épisode, les parents Askofaré ont déménagé au Sénégal. Donc au final, cette stratégie développée par les parents, elle a en partie fonctionné puisque les enfants ont de bonnes positions professionnelles, mais à l'étranger. L'expérience de retour de l'un des fils n'a pas eu d'effet d'entraînement chez les autres enfants. La stratégie de reproduction sociale mise en place par le père a échoué, puisque le tremplin politique qu'il a préparé pour son fils s'est avéré glissant pour lui. Les différentes formes de capitaux qu'il a accumulés au cours de sa vie de privilégié ne l'ont pas aidé, voire l'ont desservi à certains moments. Le père peut maintenant faire une croix sur sa succession politique. Alors, en guise de conclusion, des éléments de conclusion, il semble exister au Mali un processus paradoxal de reproduction sociale chez les familles membres des élites, alors que la réussite sociale des parents s'affiche notamment par le mode de vie international qu'ils arrivent à offrir à leurs enfants, ces derniers ne semblent pas en mesure d'accumuler les ressources d'une réussite sociale locale. Ces jeunes apparaissent en quelque sorte déconnectés de leur pays et de ses réalités sociales. Le fait de ne pas rentrer constitue, une fois les études terminées, constitue souvent la meilleure des solutions pour eux. De ce point de vue, le voyage effectué pour les études supérieures est inachevé dans la mesure où il n'a pas permis un retour complet de l'investissement des parents pour des études supérieures lointaines et coûteuses. L'insertion professionnelle, sociale et professionnelle de ces jeunes au Mali semble bien difficile. Au contraire, les nouvelles figures de la réussite semblent émerger ailleurs, dans l'informel notamment, chez des catégories sociales moins privilégiées qui vivent dans un quotidien plus difficile, ce qui les rend sans doute plus aguerris à la dureté de ce pays. De là semblent émerger, au gré des contextes politiques notamment, de nouvelles figures, à l'image du capitaine Amadou Aya Sanogo, chef des putschistes qui a renversé le président Touré à la suite du coup d'État. Cet officier subalterne de l'armée malienne, que beaucoup considèrent comme celui qui détient les clés du pouvoir actuel, compte désormais sans nul doute parmi l'élite du pays. Son ascension sociale a été fulgurante. S'il continue à jouer un rôle politique de premier plan, il est probable que lui aussi, dans un futur proche, soit tenté d'envoyer ses enfants étudier à l'étranger. Et sa pratique de la langue anglaise et les différents séjours qu'il a de formation militaire qu'il a fait aux États-Unis lui feront peut-être choisir lui aussi les campus universitaires américains.
Merci Kevin.
Merci pour vos papiers. Je vais faire quelques réflexions, puisqu'on aborde des réflexions d'ensemble, plutôt que de revenir d'ailleurs sur cette situation individuellement, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent. À commencer par ce que je trouve être une tendance à beaucoup naturaliser la question de la classe, en fait, à la réifier. On parle beaucoup de classe moyenne, d'élite, et de manière d'ailleurs que je trouve plutôt paradoxale, puisque on dit souvent finalement qu'on a beaucoup de mal finalement à décrire ces catégories, à dire ce qu'elles contiennent exactement, en tracer des contours précis, a fortiori d'ailleurs quand les gens ne se réclament pas eux-mêmes d'une classe sociale, en particulier pour la classe moyenne. Vous dites bien vous-même dans vos papiers que rarement finalement les gens se réclament de cette classe moyenne. Donc finalement, en fait, il y a une difficulté, un paradoxe, c'est-à-dire que dans les papiers, on essaye de naturaliser la question de la classe, de la réifier, de la durcir, de la définir comme un contenu, mais pour autant, on trouve, c'est une catégorie qui est très floue, qui est très fluctuante d'ailleurs qu'on essaie de l'appliquer à une société donnée, et y compris d'ailleurs quand on essaie de la définir par l'autodéfinition des acteurs. Donc c'est quelque chose qui, n'existe, qui est difficile à définir, qui est difficile à cerner. Et donc du coup, sans forcément non plus s'interroger sur de fait qu'est-ce qui produit la classe. Et d'abord comme énoncé, comme notion. C'est-à-dire en fait, quand vous parlez de classe moyenne, notamment dans trois papiers, jamais véritablement on ne fait finalement la généalogie de la classe moyenne. C'est, d'abord, qu'est-ce que d'où vient, depuis quand est-ce qu'on parle de classe moyenne dans ces pays? Et qu'est-ce qui la produit d'abord comme agrégat statistique, avant même de la produire comme réalité? Est-ce que c'est pas finalement les agences d'État, les organisations internationales qui arrivent avec cette notion de classe moyenne, et dans quel contexte, et pourquoi et pour quels usages? Avant même d'ailleurs qu'on ait, c'est pas finalement une notion de classe moyenne, c'est pas quelque chose qui vient nécessairement de l'observation du terrain, ou de même de l'autoproclamation d'un groupe social ou de son autodéfinition. Donc c'est intéressant peut-être de faire la généalogie de la notion de classe moyenne et de dire d'où ça vient et qui l'utilise. Donc du coup voilà, et qui l'a fait circuler. Et donc du coup voilà, il y a aussi c'est ce qui apparaît dans les papiers, c'est qu'il y a un manque ou une aporie à travailler l'idée des classes, et en particulier l'idée des classes moyennes, comme énoncé et en faire la généalogie. Parce que finalement, faire l'histoire de la classe moyenne comme énoncé, c'est pas tant faire l'histoire d'un groupe social précis, d'autant qu'on a du mal à circonscrire, mais peut-être d'ailleurs plutôt faire l'histoire d'un ensemble de savoirs technocratiques. Et de ceux qui l'utilisent. Et ceux qui l'utilisent ne sont pas justement nécessairement la classe moyenne, supposer qu'on prenne au sérieux cet agrégat. Mais ça renvoie justement à la généalogie, la traçabilité de certains savoirs d'État. D'ailleurs, autant, sinon plus, qu'à l'intérêt même de la stratification sociale comme forme d'analyse sociologique ou d'analyse politique. Par exemple, justement, c'est une question à laquelle on ne répond pas, c'est que dans les papiers, il semble acquis, et jamais véritablement l'union discutée, qu'on a intérêt finalement à élaborer des stratifications sociales, des classifications, des hiérarchies, et à les durcir. Mais la question que je pose, c'est stratifier pour quoi faire et pour quoi le dire. Voilà quoi. C'est a fortiori finalement quand on pense à la notion des classes sociales ou des classes moyennes, en fait, de manière finalement pas forcément articulée, ou pas forcément comme formation, comme processus, ou comme classification. Donc ça, c'est un premier point. Et pour ma part, ce qui m'interpelle en particulier dans la notion de classe moyenne, et dans la manière dont elle apparaît dans le cadre de beaucoup de pays africains, et ça apparaît en filigrane des présentations finalement, c'est qu'il s'agit d'un telos, c'est-à-dire d'un rapport à l'avenir, d'un rapport au futur. Ça renvoie la classe moyenne, par exemple, à l'imaginaire d'un futur habité désirable, à une téléologie. Et c'est tout le rôle d'ailleurs des imaginaires de l'ailleurs. On parle beaucoup d'internationalisation, de désir de vivre ailleurs, de mimétisme, de style de vie par rapport à des styles de vie occidentaux, etc. Mais est-ce que cet imaginaire de l'ailleurs, c'est pas aussi un imaginaire de l'avenir, de voir son pays devenir normal, un pays comme les autres, un pays développé, de se reconnaître comme individu dans l'imaginaire de son pays, dans l'avenir, comme un pays développé. Ça, c'est un premier point. Ensuite, c'est quel est le rôle finalement politique, quelle est la fonction politique de cet élos, de cette idée de classe moyenne par exemple. Est-ce que c'est pas non plus justement la vocation dépolitisante du futur? Quand vous parlez par exemple de la manière dont la notion de classe moyenne elle est articulée à l'idée de middle income country, comme encore une fois une imagination de l'avenir, de manière complètement antidialectique d'ailleurs, comme un futur réputé désirable, mais consensuel aussi, hein, qu'on n'a pas le droit de véritablement débattre. Et c'est tout le rôle justement des grandes planifications de développement très consensuelles. On le voit nous au Kenya avec Hervé, nous en parlions aussi en Éthiopie, j'imagine le voir au Cameroun ou dans d'autres pays. Voilà les grandes planifications à 30 ans qui forment un imaginaire réputé désirable du pays dans lequel on vit, mais sans véritablement que cet imaginaire soit contesté. Ni même d'ailleurs les moyens d'y parvenir. Donc voilà, ça renvoie finalement tout ça à ce que le développement, comme imaginaire incontestable de l'avenir, a de dépolitisant. Et désamorce de fait la contestation politique ou même le débat au nom de la quête du développement, de la croissance. Et du coup, en fait, ce qu'il faudrait faire quand on parle peut-être de classe moyenne, c'est peut-être de faire l'analogie entre l'usage de ces classes moyennes et des scénarios, par exemple, de modernisation conservatrice, hein, des projets nationalistes de développement. Donc c'est à ça, finalement, que conduit l'analyse, peut-être, de classe moyenne en tant qu'énoncé, véritablement en tant que notion, et de notion politique et politisée, finalement. Donc voilà, comment, finalement, quand on invoque les classes moyennes, et les classes moyennes, surtout, comme partie d'un imaginaire plus global du développement, ce sont des processus qui participent à la formation de consensus politique forcé, hein, à laquelle finalement on peut associer, comme je disais, toutes les grandes planifications d'État, donc les visions 2030, etc. Donc du coup, plus que les catégories, c'est les catégorisations qu'il faut penser et interroger, hein, des classifications en tant que des classes sociales, et qu'il faut surtout penser toujours, je le pense, de manière relationnelle. Ça me mène à mon deuxième point. Quand on essaye finalement, dans la plupart des papiers, de tirer la caractéristique de ces classes, finalement on pense peu ces classes sociales, hein, que ce soit les élites ou que ce soit les classes moyennes dont vous parlez, de manière interactive ou relationnelle. Alors que finalement, on n'a rien dans la tradition sociologique, la classe sociale c'est d'abord une relation. C'est une tension, c'est un rapport de pouvoir, beaucoup plus finalement qu'un agrégat fini. Et donc du coup il y a cette tendance toujours très 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 sensible dans les papiers à la naturalisation, à la réification des classes ou des oublis qui tiennent à des oublis ou à des analyses de contexte dans laquelle la stratification sociale justement prend forme. Je vais prendre un exemple. On parle beaucoup de titres universitaires dans presque tous les papiers, et de manière très paradoxale. Par exemple, Kevin Nari nous dit que le titre universitaire ne fonctionne pas du tout dans le champ politique malien, comme capital pertinent dans la légitimation des notabilités ou de l'autorité politique. De l'autre côté, on voit que ça marche, par exemple, en Angola, que c'est une condition presque sine qua non d'accès à la classe moyenne ou à l'élite. Le capital scolaire, le capital universitaire, a fortiori quand il vient de l'étranger ou quand il est associé à un titre américain ou européen. Et finalement, on ne se pose jamais véritablement la question, dans les différents contextes, de ce qui monétise finalement ces titres universitaires, est-ce qu'il est valable, quelle est leur hiérarchie, est-ce qu'ils sont contestés ou non. Et donc finalement, c'est surtout qu'est-ce que la valorisation des titres acquis à l'étranger nous dit plus généralement aussi de la formation d'État. Pourquoi par exemple, ou même des professions, pourquoi finalement les savoirs managériaux et juridiques acquis à l'étranger prennent de la valeur dans les champs nationaux
Qu'est-ce que ça nous dit aussi, voilà, de la formation des secteurs privés, de la formation de, voilà, de, du champ du droit, et pourquoi du coup ça devient opérationnel dans l'échelle nationale, alors que finalement c'est pas du tout naturel. Sauf à croire que voilà, il y a quelque part un universalisme managériel ou juridique. Premièrement. Donc il y a aussi une omission de fait, plus généralement, des cadres juridiques, financiers. On parle un peu de l'accès au crédit aussi, par exemple, quand on parle des classes moyennes. Il y a ce type d'oubli, et ce qu'il permet aussi, donc du coup, du secteur bancaire. On parle un peu des transferts financiers intergénérationnels. Donc là, je fais une numération du régime de la terre, de ce qu'il garantit, des formes de l'héritage, comme si tout ça, ça allait de soi, finalement. Et qui sont finalement tout le contexte de formation étatique ou de formation sociale dans lequel, finalement, les classes moyennes ou les formations élitaires prennent forme. Donc ça c'est un deuxième point, on voit vraiment bien la difficulté par rapport à ça, si on ne prend pas en compte ces contextes, la difficulté de durcir ces catégories, et fortiori de manière comparative. Par exemple, Juliana nous parle des classes moyennes comme étant des catégories qui dans la capitale angolaise, gagnent entre 5 000 et 15 000 dollars mensuels, alors qu'en Éthiopie, c'est plus 200 ou 300 dollars. Donc on voit bien finalement que ce qu'on appelle classe moyenne, c'est pas du tout la même chose d'un contexte à l'autre, et que c'est vraiment la comparaison qui fait jaillir comme quelque chose de très curieux. Et c'est ça finalement aussi la difficulté, voire l'impossibilité à penser la classe comme substance dans les catégories, parce qu'on n'est pas même capable finalement de les catégoriser par des agrégats économiques ou financiers ou salariaux. Un autre point qui a lieu finalement à l'absence de mise en relation de la catégorie de classe, alors que pour autant, par exemple dans des contextes tels que américains ou français, on a tendance aussi à penser la coproduction des catégories de classe avec celles de genre par exemple et celles de race, on voit par exemple que très peu de papiers parlent de genre. Donc jamais on ne parle de la formation des classes comme recomposition des rapports de genre par exemple. Comment finalement l'enrichissement conduit à l'externalisation du travail domestique, par exemple à travers l'emploi du personnel de maison, etc. Et ce qui conduit à une recomposition des rapports de genre qui permet aux femmes de libérer du temps pour accéder au travail salarié. Jamais véritablement ça apparaît dans les papiers quand on parle de classe moyenne ou d'élite. Donc voilà pourquoi est-ce que finalement quand vous parlez de classe moyenne ou d'élite, on ne parle pas de domesticité. Pourquoi est-ce qu'on prend quelque part comme quelque chose qui ne vaut que dans l'espace public alors que finalement il me semble que la formation des classes sociales a aussi beaucoup à voir avec la recomposition des modèles de domesticité. On parle également d'argent, mais encore une fois de manière très durcie, de manière très catégorielle, on parle véritablement de rapport à l'argent. Et quand on parle de rapport à l'argent, on ne va jamais jusqu'au bout de l'éthique économique en fait. On parle très peu d'éthique économique et d'éthique d'accumulation. Ou du moins on ne pousse pas la logique jusqu'au bout. Je parlais tout à l'heure de ce que l'usage d'une catégorie comme les classes moyennes a à voir avec un imaginaire nationaliste du développement, et en allant plus loin, je dirais, auquel s'articulent les figures individuelles de la réussite sociale. Et c'est assez intéressant de voir que dans ce panel, qui est un panel qui est un panel classe sociale, on parle de classe moyenne, on parle d'élite, on parle pas de classe populaire en Afrique. Les savoirs d'État constituent la pauvreté finalement comme catégorie toujours provisoire. Donc en fait, ce qu'on essaie de durcir dans les classes sociales, c'est les élites et ce sont les classes moyennes. C'est d'ailleurs encore une fois des catégories d'avenir qui renvoient finalement à un pays comme étant un avenir désirable, etc. Donc quand je vous parle de figure individuelle de la réussite sociale, c'est que voilà, c'est toujours lié à cet avenir réputé désirable dans lequel on peut s'accomplir en tant qu'homme ou femme. Et c'est vrai en particulier justement des élites élitaires ou des élites de classe moyenne. Et si on s'intéresse à la formation des classes, et si on s'intéresse dans la formation des classes aux élites, aux éthiques personnelles d'accumulation, au rapport téléologique à la réussite personnelle, est-ce qu'on ne peut pas lier du coup l'émergence de certains groupes sociaux, les classes moyennes par exemple, à certains phénomènes religieux comme le pentecôtisme? Le rapport à l'avenir, à la réussite sociale dans l'avenir est très présent, et encore une fois, aucune mention du religieux dans la plupart des papiers qui ont été énoncés. Et pourquoi du coup on n'arrive pas à faire des analogies éthiques finalement entre des appartenances de classe ou des éthiques d'accumulation et des éthiques religieuses. Par exemple, dès lors qu'on compare finalement ce que c'est qu'une éthique religieuse et une éthique d'accumulation économique, on voit des homologies formelles dans le rapport à l'avenir et à la réussite individuelle de soi dans un avenir collectif réputé désirable. Voilà, donc du coup, en fait, d'où aussi, par absence de connexion, une absence totale du fait religieux dans tous les papiers. Donc voilà, c'est en conclusion, je dirais, voilà, la théorie des papiers, c'est de considérer la classe comme une catégorie réifiée, hein, beaucoup plus que comme des formations connectées. Voilà, j'invite à Hervé ensuite à...
Une intervention que je crois très utile. Pour réagir au papier, d'abord je voudrais souligner la qualité des papiers qui ont été présentés. Tout se repose sur des terrains longs et on arrive avec une masse de données nouvelles. on l'a vu donc plus ou moins analysé. C'est normal parce qu'il y a certains qui sont en début de thèse, d'autres en fin de thèse, d'autres. Alors, pour ma part, pour réagir à l'égard de ces papiers, je voudrais inciter à travailler davantage sur les dynamiques structurelles de production des émissions des classes sociales. Et je voudrais souligner trois grands domaines. Il y a d'abord les migrations ville-campagne. Là, c'est quelque chose dont ils sont totalement absents de ces papiers. Or, en Afrique de l'Est, il y a depuis les années 80 beaucoup de débats. Beaucoup de débats sur la façon dont ces migrations produisent ou non des classes moyennes. Comment l'argent produit en ville, quand il est réinvesti à la campagne, est-ce que ça amène une structuration de l'économie qui permet de produire des classes sociales, notamment des classes moyennes rurales. Ce qui est étonnant dans les papiers que l'on a eus, c'est qu'on a des classes moyennes qui, pour nous, est-africanistes, sont hyper exotiques, parce que c'est des vrais urbains, comme s'il n'y avait aucun lien avec la campagne. Alors c'est peut-être dû au pays que vous étudiez. L'Éthiopie, longue tradition urbaine. L'Angola, un pays post-crise, où le lien avec le rural est très cassé. Mais c'est très spécifique dans le reste des terrains africains. Et ça, il faut que vous l'expliquiez, peut-être. Il y a un second domaine structurel, une seconde dynamique structurelle de production des classes moyennes, essentiellement, c'est les formes d'unités domestiques. C'est là que Juliana aborde le sujet et nous explique que les classes moyennes, c'est une unité domestique constituée des parents plus deux enfants. Et vous le présentez uniquement comme l'une des caractéristiques d'un mode de vie. Mais l'unité domestique, le type de famille, ça a beaucoup, beaucoup plus de fonctionnalités. C'est décisif dans la production des classes sociales. Et donc, il me semble intéressant d'essayer de réfléchir à comment ces classes moyennes en sont venues à changer de type de famille par rapport à celle de leurs parents. Et donc à réfléchir au rôle, bien sûr, des églises, des écoles, des discours de modernisation, des discours étatiques sur l'hygiène, sur la santé, ainsi de suite. Alors, également, cette transition démographique, aujourd'hui, elle tend à déborder les classes moyennes. Et en Afrique de l'Est, on a des zones où c'est la majorité de la population a effectué cette transition démographique. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que juste que ça amène un rapport des classes moyennes urbaines à leur parenté rurale qui est de type différent de quand la parenté rurale est de type famille élargie. Ce qui semble apparaître, c'est que les liens de dépendance avec la ruralité sont beaucoup moins forts. Et bien entendu, ça dit beaucoup de choses sur les systèmes de patronage, sur la capacité pour les élites politiques de contrôler la classe moyenne urbaine, ainsi de suite. Il y a une troisième dynamique que je voudrais souligner, c'est le rapport à l'État. Comment l'État, bien entendu, est un facteur déterminant de production des classes sociales. Il faut rappeler qu'il y a des classes sociales qui n'ont pas besoin d'État pour prospérer. La paysannerie, les pasteurs au sens des éleveurs, hein, pas les figures religieuses. Les commerçants, regardez comment en Somalie, les commerçants sont les premières catégories sociales à flinguer toutes les tentatives de retour à l'État. Parce qu'elles prospèrent beaucoup mieux dans une situation sans État. Par contre, les classes moyennes, elles ont besoin de certaines conditions économiques. Il faudrait qu'on réfléchisse davantage auxquelles. Et elles ont besoin d'un certain contexte étatique. Il faudrait essayer de réfléchir auxquelles. Alors là, Clélie apporte des choses. Elle parle moins du rapport de la classe moyenne à l'État qu'au régime politique.
Mais elle nous explique que oui, les classes moyennes, elles sont essentiellement légitimistes. Là, on retrouve le vieux thème dans l'analyse des classes moyennes en rapport aux autres classes sociales, le vieux thème de la classe moyenne contre-révolutionnaire. Alors, bien sûr, en Occident, contre-révolutionnaire, c'est-à-dire que la classe moyenne, c'est le rempart contre les prolétaires, qui détruiraient le système capitaliste, ainsi de suite. En Afrique, c'est un rempart contre quoi ? Au Kenya, on le voit assez bien. C'est un rempart contre les jeunes hommes violents qu'on les appelle Mau Mau à un moment donné, qu'on les appelle Mungiki à un autre. Il y a comme ça toute une série de pays africains où on voit bien par rapport à quoi la classe moyenne se situe. Et ce discours de on est un rempart contre telle catégorie sociale, c'est hyper important parce que ça permet à ces gens qui ont souvent des modes de vie très différents, c'est là où on n'est pas d'accord, d'agglomérer une identité finalement commune. C'est par ce discours à l'égard de l'État et du reste de la société qu'une identité se crée, se cristallise. Et une fois que ce discours de cristallisation, de justification, de légitimation opère, ces groupes réussissent à énoncer des revendications à l'égard de l'État. Alors, en Occident, c'est ce qui permet à la classe moyenne de dire ben, « nous, on veut un État-providence ». En Afrique, les classes moyennes, elles disent plutôt, ben, du moins au Kenya, elles disent « nous, on veut un État de droit ». Et sous l'État de droit, elles y mettent des contenus différents selon les époques. Depuis les années 90, ça a donné lieu à une demande de réforme constitutionnelle. Et ça, vous le trouvez dans beaucoup de pays africains. Mais lors du référendum de 2010, ils ont plutôt demandé un état de droit qui garantisse des normes qui permettent ce que j'appelle une assurantialisation de la vie sociale. C'est-à-dire que les assurances privées que la classe moyenne prend pour se protéger, que ça soit bien garanti par l'État. Bref, ce que je veux vous dire, c'est simplement que quand on parle de la classe moyenne, Il faut c'est intéressant de travailler sur les différents groupes qui essaient d'expliquer la parole de la classe moyenne, d'agglutiner la parole de la classe moyenne. Discours qui change énormément. Disons ça autrement. Les analyses sur les classes moyennes, elles relèvent souvent des études de marketing. C'est-à-dire que elle se résume souvent à une présentation, à un tableau brut de voilà comment telle catégorie sociale vit. Et le marketing, c'est très utile pour cerner des clientèles qui vont acheter le frigo, la gazinière, ainsi de suite. Mais ça ne nous dit pas grand-chose sur les classes, ça n'a rien à voir, j'allais dire, avec les classes sociales. C'est simplement une tentative de définir une clientèle, le marketing, les études de marketing. Là où on peut parler de classe sociale, c'est dès lors que l'on travaille sur les discours que les gens ont sur leur mode de vie. Là où c'est intéressant, c'est non pas comment ces gens, le mode de vie de ces gens, mais comment ils pensent leur mode de vie. Bon, voilà, et il me semble que c'est autour de tous ces discours de légitimation sur quel groupe arrive à agglutiner ces discours qu'on pourra un peu faire évoluer l'analyse des classes moyennes actuellement en Afrique. Voilà. Merci. Alors, on peut peut-être... Bon, on commence. Peut-être on peut poser toute une série de questions et on prend 3 questions, vous y répondez, et après on va continuer.
Tous les deux soirs, je suis chercheur dans la structure de la santé nationale. Marseille, je travaille en collaboration avec Bordeaux sur le groupe des classes moyennes. Je reviens en fait sur la dimension féministe, j'ai trouvé assez injuste. Vous avez des chercheurs qui travaillent sur les classes moyennes. On se dit bien qu'on utilise le terme non pas comme un objet, mais vraiment comme un outil, on fait une sociologie de l'entre-deux. C'est pas quelque chose de simple, pour le moment on n'a rien de mieux comme outil, donc on fait avec ce qu'on a. Quand on aura trouvé un concept plus utile, on l'utilisera. Pour le moment, c'est pas très facile. Par ailleurs, il y a eu un problème effectivement entre les personnes qui disent que je viens là parce qu'on a une définition de classe moyenne très compliquée de développement, 2 à 20 dollars par jour et par habitant, qui est plus ou moins sur le crédit, et je viendrai aller plutôt sur la définition globale middle class, car effectivement, la question qu'il faut se poser, c'est si ça c'est la middle class, c'est quoi l'élite? J'en ai cousin. Et donc ça, c'est... voilà, on est dans une sociologie d'entre-deux, on sait qu'on fait ce qu'on peut pour parifier, mais que c'est pas simple. On sait également que l'étude même des classes moyennes a une portée performative, et qu'en interrogeant les gens sur leur perception de ce qui est moyen, on crée la catégorie dans leur pensée, et que donc on modifie notre objet de recherche, donc c'est pas simple.
Il y a des questions ?
Non, c'était... J'en ai d'autres, mais c'est
pour bien distinguer. Oui ? Okay. Moi, c'était... Désolé pour la... L'intervention de Dominique, pour moi, enfin, concernant son très solidaire, pas forcément par rapport à l'intervention précédente, qui était intéressante, mais par rapport à un contexte d'un analyse général plus profond. Effectivement, il y a un paradoxe, parce que quand on parle de classe, on est dans un contexte où on parle de classe, en Sud-Africaine, on a vu énormément apparaître l'identité sur la classe moyenne, alors même que dans la réalité, ces catégories intermédiaires, justement dans les années 90, ont effectivement été l'avenir. C'est-à-dire que la relative moyennisation qui avait été entre les années 60 et les solutions culturelles, même sur le plan objectif, nous avons voulu faire apparaître des solutions, faire apparaître entre nos catégorisations de ce que l'on cherche et des éléments de la réalité, donc un peu de paradoxe. Ensuite, pourquoi est-ce que justement il serait pas en question de ces catégories-là? Et je pense que c'est parce que, enfin, du coup, tu vas m'expliquer, donc, parce que souvent, c'est associé à une certaine vision, contre le plus négatif, parce que, ça correspond à tout un discours sur la démocratisation. Et la classe moyenne est censée porter cette démocratisation qui est un serpent de mer, et où, en fait, en tant que président d'État, de la même manière, on peut s'introduire dans les pays. Et après, les études africaines ont été très touchées par l'ensemble de sur les conditions démocratiques et sur la démocratisation. Et il y avait une identification très mécanique entre ce secteur fondateur qui était effectivement en plus et les objectifs stratégiques qui correspondent aux émissions d'avenir, je vais travailler là-dessus. Et ensuite, un élément de plus, parce qu'effectivement, le but que j'abordais pas, effectivement, il y a des réserves. Je suis aussi d'accord avec ce que vous disiez sur le fait que c'est pas nécessairement une catégorie à valider, mais que penser. Ces catégories intermédiaires de manière relationnelle, à mon avis, c'est les pensées en termes de relations de pouvoir, et je pense qu'il faut ajouter en termes de relations productives. Définition initiale de classe, on peut être d'accord avec ça, et c'est tout de même comme intégration dans des relations productives, donc sur le plan d'action des crédits. Et dans ce sens-là, ça veut dire qu'on voit par exemple la catégorie qui réunit les commerçants, les fonctionnaires moyens et hauts fonctionnaires, et les artisans, etc. On est sur des gens qui finalement ont une insertion de leur rapport de production qui est très différente. Très hétérogène. Donc la définition par le niveau de vie, les conditions de vie, le revenu, c'est une vision statistique, une vision qui ne peut pas tenir compte en fait des éléments rationnels qui définissent les problèmes. Donc voilà. Encore une fois, c'est pas une question, mais je pense qu'elle est assez ouverte.
On va faire de la politique comme on trouvait dans le sujet.
Donc pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi j'ajouterais aussi, au-delà du rapport de production, comment elle se forme. Il y a des écrits là-dessus justement que peut-être ce qui est aussi intéressant, voire plus intéressant qu'un rapport de production, c'est la question de la formation, c'est de la société, comment est-ce qu'elle se forme. Bon, alors du coup, par exemple, moi ce que je trouvais qui manquait cruellement de la présentation sur Angola, c'était la question pétrolière. Bon, par contre, je suis très intéressée de savoir comment tu as fait ton terrain et comment ça s'est fait, parce que bon, là, j'ai une ville extrêmement chère et je me demande comment tout ça s'est passé. Et en fait, mon terrain a plus bas, donc en fait, on rivalise en termes de coupé. Sinon, dans la présentation de Kevin, je me demandais si tu avais, parce que vous rebondez un petit peu sur ce que tu as dit sur qu'est-ce que ça nous dit en fait sur l'État. Moi, je me demandais qu'est-ce que ça nous dit aussi sur les stratégies américaines et les stratégies françaises, puisque quand tu vas dans une conférence internationale de chercheurs sur l'Afrique aux États-Unis, tu vois bien plus de profs, de chercheurs africains là-bas qu'en France, et que si tu interroges d'autres, même des Béninois, des Togolais qui sont aux États-Unis maintenant, ils auront un peu pas le même discours en disant voilà, nous, la France, on ne veut plus y aller parce qu'il y a trop de discrimination. Et je me demandais si tu explorais un petit peu les stratégies des universités américaines pour attirer justement tous ces étudiants africains, et même si ça te parlait en termes de politique étrangère.
Jusqu'à présent, on a eu assez peu de questions. C'était les premières questions. On avait des commentaires sur les deux écoles. Vous l'avez compris, hein, sur l'étude des classes moyennes, il y a deux écoles qui se différencient très nettement. On va dire l'école de Bordeaux et une autre école. Et je suggérais qu'il y a également une approche anthropologique qu'il faudrait peut-être esquisser. Mais on a une question peut-être.
Oui. La formation des classes sociales.
Oui, tout à fait, tout à fait. Peut-être qu'on peut rajouter quelques questions.
Oui. Une petite question basique, parce que je vous souhaite bon courage pour répondre aux remarques très pertinentes de Dominique et Guillaume. Du coup, je voulais vous faire juste une petite porte de sortie avec une question très basique. Pour Kevin, si j'ai bien compris, tu lui expliques qu'en gros, au Mali, la reproduction sociale n'est pas possible. Et pas achevé parce qu'effectivement on peut pas revenir et obtenir une bonne situation et on l'obtient ailleurs. Je voulais savoir en quoi c'était une spécificité du Mali, parce que moi j'observe exactement l'inverse au Togo et au Comores, donc ça m'a interrogé. C'était une reproduction sociale rapide.
Y a-t-il d'autres questions? Oui.
Et puis aussi une remarque, peut-être qu'il y a deux écoles, puis je pense qu'on a une troisième
la géographie
Virginie, qui justement, là pour le coup, je pense que tu as été injuste de ne pas mettre en valeur son approche, très, qui parle du matériel, comme tu le verras, qui parle de l'objet, qui parle effectivement des stratégies de distinction. Économiques qui peuvent ensuite avoir éventuellement des répercussions sociales ou pas.
Sur toute la question de l'archipélisation de la vie sociale, ouais. De la vie urbaine.
Enfin, voilà, donc.
Tout à fait. Au moins. Au moins. Pas d'autres questions? Allez. À vous l'honneur qui commence. Allez, Clément. À toi.
Enfin, moi, je suis totalement d'accord avec le fait qu'il fallait travailler sur la catégorisation, et c'est le plus important à la base. Donc, de cette classe objet, je suis d'accord qu'elle est totalement créée par les institutions internationales. Après, là où je suis pas d'accord, c'est pas parce que elle est peut-être qu'elle n'a aucune, qu'elle n'a pas d'existence objective ni subjective dans les sur le terrain africain. Enfin, ça, après, c'est un résultat, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas l'étudier empiriquement. Je ne vois pas pourquoi ça empêcherait d'étudier, en fait, le groupe. Je pense que c'est intéressant de considérer ces classes moyennes comme une catégorie d'analyse et pas forcément comme une catégorie, pas sans postuler que c'est une catégorie sociale. Et je pense que ça révèle l'étude des... Enfin, entre guillemets, classe moyenne, révèle des transformations sociales et économiques particulièrement intéressantes.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec toute la difficulté de définir ces volontaires par classe moyenne. Je suis d'accord avec avec ce que Dominique vient de dire. Et je suis d'accord aussi avec les différentes approches. Je pense que ce qui est intéressant, par exemple, la différence entre nos travaux, c'est qu'effectivement, je pense que tout va se base sur effectivement, les rapports de la femme pour certains développements. Et moi, je rejette justement cette catégorie présentée par la Banque africaine de développement parce que je pense qu'elle n'est pas adaptée surtout au contexte des lois d'art. Je ne peux pas parler des catégories qui viennent des 10 à 20 dollars en disant qu'ils sont des classes moyennes dans un contexte où les coûts de la vie, on paye 5 000 dollars par mois de loyer. Donc, ça rajoute encore des problèmes, je pense, dans la définition des catégories sociales. Et j'espère plutôt des réponses et des critiques qui vont nous amener à me poser des questions qui vont finalement dégainer des réponses, que j'apporte des réponses précisément. Et par rapport au terrain, j'ai beaucoup galéré, mais c'est vrai que j'ai bien profité de mes compatriotes brésiliens qui habitent à Luanda. Bon, je ne les connaissais pas, mais j'ai essayé de créer un réseau avec les Brésiliens qui sont là-bas, parce que moi je suis quand même brésilienne. Donc j'ai profité de ça pour les logements, ce qui a été déjà énorme. Puis je l'ai financé pour un billet d'avion, pour un des terrains. Et puis j'ai été financée aussi parce que j'ai fait une étude sur les pratiques alimentaires des classes moyennes en Angola. Et donc, ça m'a aussi permis de financer un troisième terrain qui était celui-ci plus censé de confirmer ou pas des hypothèses que j'avais remarquées dans d'autres terrains, notamment sur les classes moyennes.
Merci pour ces commentaires. Donc, je prends note. Je pense également qu'on est conscient que ces catégories-là ne sont pas totalement satisfaisantes et effectivement on les utilise aussi comme outil faute de mieux. Pour ce qui est une question qui est derrière vous, justement sur la catégorie commerçant, vous avez dit qu'elle n'a pas forcément besoin des États. J'ai pas de ce que j'observe des grands commerçants malais, j'ai pas l'impression que ce soit. Je vois beaucoup de liens avec l'État, enfin, j'ai l'impression.
Oui, c'est la même situation, mais ce que je veux dire, c'est que le commerce, quand on regarde la situation de la Somalie, la Somalie a une économie qui finalement est assez vibrante, du moins le commerce a beaucoup prospéré à partir de 91 quand l'État a chuté, et depuis 20 ans, on s'aperçoit que les commerçants, c'est la force qui s'efforce le plus systématiquement de miner toutes les tentatives de recréation de l'État, parce que pour eux, c'est beaucoup plus commode de ne pas avoir de taxation, ou du moins de payer du fric à des warlords ou à d'autres groupes dont les commerçants de fait n'ont pas besoin de l'État bien souvent. Ils peuvent utiliser l'État. Et c'est purement la situation souvent.
Au Cameroun, surtout à Douala, qui est la ville capitale économique, la ville du business, en fait, ils disent que le commerce et la politique vont ensemble. Parce qu'il faut négocier avec l'État, avoir le soutien de l'État pour réussir dans son commerce. Du coup, c'est vraiment des cas très différenciés selon les situations.
Par rapport à la migration et la situation des catégories moyennes, surtout urbaines, il est vrai que dans les contextes de l'Angola, la guerre joue un rôle assez important, mais il n'y a pas que la guerre parce qu'effectivement il y a toute une stratégie étatique des développements des centres des 4 ou 5 villes dans les pays et qui n'a pas effectivement stimulé les retours des exilés, des déplacés des guerres à leur ville d'origine et qui dans les cas où ils étaient stimulés par 2 ou 3 petites politiques publiques des développements dans des régions d'origine, ils n'ont pas se senti stimulés parce que quand la guerre était assez longue, ils étaient déjà bien installés à Luanda, ils avaient déjà un réseau à lequel ils appartenaient et ils n'étaient pas forcément, les mots m'échappent, mais ils ne voulaient pas forcément retourner en province, surtout parce que les développements économiques et les changements de la ville qui bougent tout le temps leur fait imaginer des possibilités d'ascension sociale beaucoup plus grandes s'ils restent dans les centres urbains. Et par rapport aux conditions d'habitation, et aux possibilités de des distinctions sociales dans les différents quartiers. Ce que je trouve assez intéressant à Luanda, c'est que il y a tout un mouvement de l'État, des créations de nouvelles périphéries, aux nouvelles centralités, périphériques, satellites, on dit des villes satellites, où ils vont installer la classe moyenne. Théoriquement, il y a tout un grand investissement qui a été fait pour la création de plus de 2 millions de maisons ou d'appartements dans une périphérie, qui n'a pas, donc, à peine 1 ou 2 ou 3% maximum, est aujourd'hui effectivement occupé, parce que la supposée classe moyenne n'a pas des moyens d'accéder au prix élevé des appartements dans ces villes, mais aussi parce qu'ils n'ont pas envie de déménager si loin de la ville, loin des écoles, loin de leur travail, etc., etc. Et on observe aussi donc que cette classe moyenne à Luanda, elle ne peut pas s'identifier par un quartier. Par exemple, on peut identifier des quartiers plutôt aisés, mais dans les quartiers aisés, on retrouve des gens de la classe moyenne, on retrouve les gens aussi, on retrouve aussi des bidonvilles. Pourquoi ? Parce que l'occupation de la ville pendant plusieurs années a été assez anarchique. Et les déplacés de guerre ont encore rendu ça encore plus compliqué. Ce qu'on observe, c'est une stratégie du gouvernement ou une stratégie des élites, il faut bien analyser, qui est justement un mimétisme de ce qu'on voit dans certains autres pays par rapport aux classes dirigeantes au niveau de la sécurité, au niveau de l'éloignement de la du centre-ville, des grands quartiers qu'ils appellent des condominiums avec des maisons très sécurisées, avec des piscines, un petit club où les voisins peuvent participer, etc., etc. Mais c'est la seule distinction, parce que ce qui devrait être une distinction pour la classe moyenne ne l'est pas, parce que la classe moyenne n'arrive pas à accéder au marché ou ne veut pas déménager dans les villes censées être créées pour cette classe moyenne telle qu'elle est vue par l'État.
Ok. Est-ce que je peux donner rapidement une autre question ?
Oui, bien sûr.
Sur les stratégies américaines et françaises, je crois qu'il y a une différence. À Bamako, il y a une école américaine qui s'est ouverte il y a quelques années. Je ne l'ai pas enquêté parce que les élèves de terminale sont 7 ou 8 manières dans toute l'école. On voit des fils de ministres qui sont genre scolarisés dans cette école-là, où les frais de scolarité sont encore plus élevés que ceux qui disaient. L'ambassade américaine à Bamako est toute neuve, elle s'est relocalisée, elle est toute neuve dans le nouveau quartier. Et elle est de fait beaucoup plus visible que l'ambassade de France aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi que les solidarités américaines et françaises sont différentes. Là. Si en France l'image du clandestin est plutôt africain, aux États-Unis c'est plutôt l'Amérique latine. Les États-Unis ont un programme de visa de loterie Green Card qui propose de faire venir des immigrés de pays qui ne sont pas représentés aux États-Unis, dont forcément les Africains francophones font partie. Donc du coup, ils sont plus aussi valorisés dans les universités américaines, dire voilà, on a des étudiants du Mali, on a des étudiants du Bénin, etc. Donc ça fait, je pense, une réelle différence. Et quand j'ai été au lycée français, ça a été avec la directrice, elle a accepté que j'admisse les questionnaires, mais elle ne voulait pas que le lycée français soit cité, parce que nous, on veut former les maliennes, et donc on n'a pas vocation à ce qu'ils aillent après aux États-Unis, on veut les former en France, mais c'était un point. Elle a dit que directement, ils étaient en concurrence, forcément, avec les États-Unis. Après, pour répondre sur la question de la reproduction sociale ratée, alors je dirais plutôt qu'elle est inachevée, parce que elle n'est pas totalement ratée, parce que ces jeunes-là, le contexte est très. Ce contexte malien. Donc ils sont pas non plus à charge, ces jeunes-là, quoi. Ils sont quand même cadres hein, dans des entreprises privées, ils gagnent souvent plusieurs centaines de milliers de francs CFA. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas une reproduction sociale dans le sens où ils n'atteignent pas le mode de vie qu'ils ont connu forcément dans leur enfance. On dit souvent que 210, 300 000 francs, pour eux, c'est le prix de l'essence qu'ils dépensaient quand ils étaient jeunes. Parce que c'est l'accès à l'État qui permet aux parents d'avoir vraiment, de s'enrichir, mais très fortement, par des stratégies de prédation, notamment, sur les ressources. Et donc, après, je pense qu'il y a un effritement graduel, après, serais curieux de savoir ce que ça devient après cette génération. Quoi. Mais ils sont pas pauvres, hein. Ils sont très bien lotis avant l'impôt. Ouais.
Ok, je vous remercie. Vous, à propos de décorer les travaux.
Je vais vous montrer le quatrième étage, ici, pour prendre l'ascenseur et le